Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Rancière qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets divers et variés, des sujets d'actualité, des sujets intemporels aussi. Il y aura des deux aujourd'hui. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, bienvenue, heureux de vous retrouver avec les auditeurs de Radio Rancière.
Joie partagée, nous allons revenir sur une belle visite pastorale dans la paroisse Sainte-Marie des Peuples du 15 au 18 janvier. C'est très difficile aujourd'hui de se rencontrer, mais vous avez réussi quand même à rencontrer pas mal de monde au cours de ce séjour.
Oui, vous savez, la paroisse. C'est pas difficile, entre guillemets, on va voir des gens quand même, des gens sont accessibles. J'étais même touché par exemple de pouvoir aller dans une maison de retraite de gens âgés, enfin une sorte de home un peu avec des logements un peu séparés, privés, mais on a pu se voir à une douzaine de personnes, un bel échange. Je pense qu'il faut aller voir les gens. J'ai pu aller voir un opticien très aimable aussi qui m'a... avec qui on a pris du temps pour discuter d'un engagement qu'il a au Tchad, au Congo peut-être, au Congo, voilà, pour apporter des soins pour les yeux, des lunettes. Donc oui, les gens sont quand même disponibles. Et au contraire, je pense que c'est un temps où il faut inventer une façon d'être aux autres il faut un peu être un peu innovant, quoi. Ouais. Sinon, de fait, on se dit ça va plus et on ne se parle pas.
Alors, cette paroisse Sainte-Marie-des-Peuples, elle est très intéressante. Les autres le sont aussi, bien sûr, mais parce qu'elle est à la fois rurale et urbaine. Donc, ça vous a permis d'aller à la fois à Milly et à Mavilliers, par exemple.
C'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est des quartiers assez populaires, hein, tradition plutôt ouvrière, Lucé, Mavilliers, et puis aussi à Milly, la campagne, plus loin. Mais globalement, on était quand même beaucoup sur Lucé et Mavilliers pour des rencontres de différentes consistances et des gens différents. Oui.
Ouais, vous avez rencontré donc là-bas les équipes pastorales et puis le père Dominique qui vous accueillait. Hein.
Alors, très bien reçu par l'équipe pastorale, par les prêtres, effectivement, mais aussi par des gens extérieurs. Par exemple, j'ai eu la joie de rencontrer les jeunes de la CASA, qui est un groupe de jeunes plutôt grands adolescents, 15-20 ans, une trentaine, très vivants, des jeunes de beaucoup de pays différents, y compris Syrie, y compris Irak. Beaucoup de joie, ils ont fait un magnifique teaser de musique qui s'appelle la CASA, qu'on trouve sur YouTube. Plein de joie, plein de questionnements, c'était très bien. J'ai pu voir aussi beaucoup d'enfants du catéchisme, on a fait une séance à l'église Saint-François, où j'ai pu répondre à leurs questions, animer aussi un chant gestué avec eux. Des célébrations, bien sûr, la messe, beaucoup de joie à ça. On a pu aller dans un lieu un peu social, on peut dire, comme Stop Solitude, un lieu où on distribue des nourritures. Enfin, les gens payent en gros 5 ou 10% du prix, mais voilà, ils sont accueillis. On respecte quand même leur dignité, on leur vend quelque chose, mais un prix moindre grâce à la banque alimentaire. En tout cas, c'est un vrai secours pour ceux qui en bénéficient. Et puis, au niveau de la vie sociale, d'abord une belle rencontre avec le maire de Lucé, Jean-Paul Gauthier, et aussi un représentant de la mairie de Mainvilliers, un échange d'une heure et demie sur comment l'Église vit dans ses quartiers, comment est-ce qu'on peut être partenaire des communes, des municipalités, sur des projets sociaux notamment, ou d'animation culturelle. Voilà. Et puis aussi, on a pu faire une heure sûrement à la mosquée de Mainvilliers, donc à rencontrer le président de la mosquée, rencontrer les deux imams, là, Nourdine et Abdelhak, qui nous ont reçus très gentiment autour d'un thé et parler un peu de religion, parler aussi de ce Covid et comment ça impacte nos communautés.
Ouais. Quand on est en visite pastorale, le défi, c'est quoi ? Enfin, le défi, c'est évidemment d'écouter, de parler aussi, de donner...
Alors, moi, je suis un peu bavard. C'est vrai que je parle peut-être trop. Mais non, c'est d'abord d'écouter effectivement ce qu'ils vivent, les projets pour les jeunes, pour les fiancés, pour la paroisse, pour la liturgie. Après ça, de découvrir quand même une réalité sociale. Parce que j'aime bien aller voir ce qui se passe dans les quartiers. On a marché un peu... j'aime bien aller voir des entreprises. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais je crois que entreprise pour l'instant, c'est compliqué pour la pandémie. Mais aller voir ce que vivent les gens sur place, c'est toujours intéressant pour s'y associer. Après, on parle de choses très concrètes, les questions économiques, les finances, les bâtiments, l'immobilier, comment avancer.
Oui. Alors, vous avez invité les paroissiens à prier, jeûner face au défi qu'est le projet de loi bioéthique.
Oui, parce qu'en fait, c'est la conférence épiscopale de France, les évêques, qui ont proposé pendant 4 vendredis de vraiment faire un effort de prière et de jeûne pour ça. Je crois que les enjeux sont très importants. Je viens d'écrire une lettre aux députés et aux sénateurs d'Eure-et-Loir. Elle est partie hier ou aujourd'hui par courrier pour leur rappeler qu'effectivement l'Église est proche des détresses, qu'elle est très sensible à ce qu'on va dire sur la vie, le respect de la vie, de toute vie. Et surtout, moi j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble avec une laïcité qui soit éclairée et ouverte entre les acteurs différents du terrain, sur qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour aider des femmes, par exemple, qui auraient une telle détresse qu'elles penseraient avorter, alors qu'on peut trouver des homes, des lieux d'accueil, de vie vraiment, à condition qu'on veut bien mettre les moyens en amont et considérer que la vie est la vie, qu'on la préserve, et qu'ensuite on trouve des moyens pour accompagner ces gens. Je crois qu'il y a beaucoup de détresses qui attendent de nous, non pas une solution expéditive qui serait comme l'avortement par exemple, mais une solution d'accueil, d'écoute et de possibilité d'avoir un enfant dans de bonnes conditions.
Ouais. Et puis vous avez, pour clore, vous leur avez conseillé une lecture, ces puissances de la louange de Merlin Carothers. Vous pouvez nous dire deux mots de ce livre?
Ça, c'était effectivement durant la vie pastorale, parce que oui, c'est un livre que j'ai découvert quand je me suis converti, il y a très longtemps de ça, en 84, qui est un livre d'une église évangélique qui met en valeur que la louange est une prière qui permet vraiment de se décentrer, de se mettre devant Dieu, de prendre un peu ces prières des psaumes qui louent Dieu, qui le bénissent pour ce qu'il donne, pour la vie qu'on reçoit, pour la fraternité. Et cette prière est puissante en nous, elle nous libère de nos peurs, elle libère jusqu'à nos corps qui prennent une expression physique même dans cette prière, et on en retire vraiment à la fois une union à Dieu plus grande et un vrai bienfait pour soi spirituel.
Deuxième sujet, c'est l'Eucharistie, le sacrement de l'Eucharistie qui est au centre de votre dernier message fraternel. Le Concile Vatican II dit de l'Eucharistie qu'il est sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal. C'est énorme.
Oui, c'est le sommet de la vie chrétienne pour nous, la messe, l'Eucharistie, c'est en fait à la fois une célébration autour d'un repas, qu'on appelle le repas pascal, mais c'est d'abord le même sacrifice que fait Jésus sur la croix qui continue. Donc Jésus, à travers ce sacrement de l'Eucharistie, s'offre toujours à Dieu le Père pour nous accompagner vers le salut et la vie éternelle. Donc c'est au-delà de l'animation, de très beaux chants, des vêtements qui sont signifiants par leur beauté, d'un respect de Dieu, etc. Il y a à accueillir sans cesse la joie d'être sauvé, la joie du salut. Certes, nous sommes pécheurs, nous sommes faillibles, nous sommes parfois pauvres devant l'attente d'amour des autres auxquels on ne répond pas toujours bien, mais Dieu est là, accompagne. Et dans cette Eucharistie, on retrouve des forces pour repartir après, pour aimer, pour créer cette fraternité entre nous tous.
À noter que finalement, la première Eucharistie fut célébrée par Jésus lui-même. Le baptême, c'est pareil. Finalement, les sacrements ont été initiés par le Christ.
C'est ça. Ils sont tous institués par Jésus, même si dans la forme, ensuite, l'Église a cheminé pour trouver la forme, on peut dire, pastorale adéquate. Mais il les a voulu, bien sûr.
Je voulais vous poser une question qui est très très personnelle, mais peut-être que d'autres se la posent, d'autres que moi. Chaque fois que je vais communier, je me dis que peut-être il va se passer quelque chose, sinon une révélation, du moins le sentiment d'une présence. Or, à ce jour, je ne l'ai jamais ressenti. Est-ce que c'est normal? Est-ce que mon attente est vaine? Est-ce qu'elle est décente?
Je pense que l'attente que vous avez, quelque part, est légitime, parce que le Seigneur nous rejoint dans tout notre être, y compris notre sensibilité, qui peut d'ailleurs être rejointe à travers la beauté, par exemple. Mais le chemin profond n'est pas de chercher dans cette sensibilité une expérience de Dieu qui serait justement sensible, mais de poser un acte de foi. Seigneur, tu es là, tu as dit « ceci est mon corps », alors je le reçois comme ton corps, comme ta présence réelle. Et je le reçois en moi parce que quand tu viens en moi, tu me transformes en toi. je deviens quelque part toi parmi les hommes. Et donc, le premier acte d'un communiant qui se présente à la communion, c'est d'abord de bénir Dieu, de louer. « Tu viens à moi, Seigneur, alors que je suis qu'une créature pauvre et souvent, malheureusement, je pêche. Donc, je te bénis pour ta générosité et je te reçois parce qu'en te recevant, c'est ta vie qui va se déployer en moi pour t'aimer, pour m'aimer moi-même, ce qui est aussi un chemin à faire, et pour aimer les autres. Parfois, on aura un sentiment de bien-être, de paix, de tranquillité, tant mieux. Mais ce n'est pas l'expérience psychologique qui qualifie la présence de Dieu. C'est vraiment l'acte de foi que je pose, et ça, on peut tous le faire.
Oui.
Car il est là. Il nous rejoint tous, qui que nous soyons.
Alors, ce n'est pas une question. On s'était promis, en se quittant la dernière fois, d'évoquer, de dire deux mots de Sainte Marguerite Bourgeois.
Bourgeois, oui. Oui, c'est une femme incroyable. Vous savez, il y a des femmes qui ont des aventures dans l'histoire de l'Église, qui mériteraient des romans, même des grands films. Elle est née à Troyes, en 1620. C'est l'époque de l'école française, de Pierre de Bérulle, de Jean-Jacques Ollier aussi. Elle enseigne, mais tout de suite, elle va rencontrer des religieuses qui lui parlent d'outre-Atlantique, notamment de ce qui se fait dans ce qui est aujourd'hui le Québec. Et elle va décider, entendant un appel que la Vierge Marie lui confirme, qui lui dit « va, je ne t'abandonnerai pas », elle va décider de se rendre à ce qu'on appelle Mont-Marie. Mont-Marie, c'est le Montréal d'aujourd'hui. Et dans le but d'éduquer les enfants indiens et enfants de colons. Et elle va avoir ensuite un talent incroyable. Elle attirera des jeunes femmes, elle va créer un ordre religieux. Et surtout, elle veut s'occuper, elle le dit, c'est les termes de l'époque, hein, des riches et des pauvres, des jolies ou des laides, des douces ou des grondeuses. Et donc, tout enfant est le bienvenu. D'ailleurs, elle va s'opposer aux châtiments corporels qui sont à l'époque un moyen éducatif un petit peu particulier. Et puis elle va revenir trois fois en France pour, à l'époque c'est quand même des voyages incroyables, en bateau à voile, etc., pour nourrir son œuvre par des communications, par de l'aide de la France. Mais surtout, elle-même est une femme de prière qui passe beaucoup de temps dans l'adoration eucharistique et qui confie vraiment au Seigneur ses enfants et ce projet éducatif. Donc c'est une vie étonnante. Je pense que des jeunes femmes qui aimeraient consacrer leur vie à l'éducation, mais qui aiment le Seigneur, pourrait vivre cette vie consacrée dans le célibat pour le royaume, comme religieuse ou bien comme sœur consacrée, mais il y a une des véritables aventures à vivre, de générosité, de rencontre. Je rends grâce à Dieu pour ça, pour ceux et celles qui osent cette vie-là, comme elle.
Merci beaucoup, Monseigneur. On va se retrouver la semaine prochaine, mais d'abord, je vous souhaite bon voyage, car Vous partez quelques jours.
Alors, à l'heure où on enregistre, effectivement, je ne suis pas encore parti, mais je pars au Gabon rencontrer un diocèse qui est très en collaboration avec nous. Une sorte de voyage fraternel, pas voyage d'affaires parce que ce n'est pas le terme pour l'Église, mais un voyage important. Et je serai aussi là pour quatre ordinations de prêtres. Donc, c'est précieux d'être avec eux. Trois prêtres de ce diocèse sont actuellement en Eure-et-Loire. Donc, je pars tranquillement, j'ai fait les tests PCR qu'il faut, tout est under control. Et je pense que c'est moins dangereux d'être là-bas que dans le métro parisien. Donc voilà.
Merci beaucoup, Monseigneur, bon voyage. Et donc à la semaine prochaine, on parlera évidemment de ce séjour au Gabon. Merci, chers auditeurs, auditrices. Merci à Simon en régie technique. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur le site www.radiograndciel.fr. FR.